Naître et savoir sur Marmite FM, ce que vous voudriez savoir avant d'accoucher et de devenir parent. Bonjour et bienvenue dans votre émission Naître et savoir. Je suis Fanta et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous sommes encore dans les temps des vœux et j'en profite donc pour vous souhaiter une excellente année 2023, remplie de santé, d'amour et surtout de sérénité. Nous nous retrouvons comme tous les mois sur Marmite FM. L'idée est de vous informer sur les sujets liés à la parentalité. Chaque mois, vous entendez des témoignages de femmes et d'hommes, ainsi que de professionnels en lien avec cette thématique, afin que vous soyez informés pour faire des choix libres et éclairés. Accueillir un enfant est une sacrée aventure, remplie de joie et aussi de challenge. La vie privée et personnelle des parents est complètement chamboulée. Dans ce contexte, comment gérer cette nouvelle vie autour de l'enfant sans avoir l'impression de la subir ou de faire des sacrifices? Souvent, c'est sur les femmes que pèse ce questionnement et notamment par rapport à leur vie professionnelle. Alors, comment concilier sa vie familiale et professionnelle pour être épanouie? Oui, car c'est possible de trouver un équilibre. C'est tout ce dont nous allons parler ce matin avec notre invitée. Bonjour Nathalie Grimaud-Morville.
Bonjour Fanta, merci de me recevoir.
Vous êtes maman de 4 enfants et vous êtes à la tête de votre propre agence de communication et d'un centre de formation spécialisé dans le marketing digital. Vous êtes ce qu'on appelle une mompreneur, c'est-à-dire que vous êtes maman et entrepreneur, chef d'entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de me recevoir et effectivement, je suis maman d'une tribu puisque aujourd'hui j'ai donc 4 enfants, comme vous l'avez dit, qui sont répartis entre 7 et 16 ans, donc des problématiques bien différentes pour chacun. Et j'ai été amenée à me poser la question et puis à mettre en place des actions et à faire des choix pour pouvoir mieux concilier justement ma vie professionnelle et ma vie de maman.
Super, vous allez nous parler de ça en détail, mais moi j'ai envie de vous dire déjà bravo, parce que avec un seul enfant déjà, c'est quelque chose d'entreprendre, mais la maman de 4 enfants, vous allez nous communiquer vos astuces et comment vous avez réussi à concilier les deux et à ne pas avoir à faire de choix justement. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ?
Avec plaisir, Fanta. Donc moi, j'ai un parcours, on va dire, plutôt traditionnel dans le sens où je me suis formée au métier du marketing à l'époque, dans les fins des années 90, début des années 2000. Donc avec un parcours très classique en école de commerce. Puis j'ai intégré différentes entreprises. Donc j'ai passé une dizaine d'années dans des agences digitales. Donc je suis tombée un peu dans le marketing digital aux prémices de ce dernier. Donc j'ai été au sein de différentes agences, notamment donc dans une des filiales du groupe Publicis. Puis ensuite j'ai travaillé donc pendant 7 ans, comme on dit, chez l'annonceur, donc de l'autre côté. Chez les clients des agences, toujours sur des problématiques liées au marketing digital, mais à des postes de management et de direction. Je me suis trouvée confrontée, d'une part à la conciliation vie pro-vie perso et d'autre part à la discrimination des femmes et notamment des mères en entreprise, puisqu'à chacune de mes grossesses, j'ai rencontré un problème. Soit licenciement, mise au placard, etc. Ce qui m'a conduit à la dernière grossesse à prendre la décision de prendre mon indépendance et de créer ma propre activité pour ne plus avoir à subir ça, même si j'avais pas l'intention d'en faire un cinquième. Mais en tout cas, ça m'avait vraiment dégoûtée de la vie de salarié en entreprise. Et je m'étais dit, maintenant, je vais travailler pour moi. Comme ça, j'aurai plus de compte à rendre à un patron et surtout, j'aurai plus de remarques sur un enfant qui est malade, un enfant à aller chercher chez la nourrice, etc. Et je pourrai vraiment mieux gérer mon emploi du temps personnel et mon emploi du temps professionnel.
Oui, en effet, par rapport à ce que vous venez de partager, on a vraiment l'impression que les femmes doivent faire des choix quand elles décident de devenir mères et elles en subissent quelque part les conséquences dans le monde professionnel. Et comme vous l'avez dit, ça peut être des remarques plus ou moins déplacées
voilà, sur un nouveau rythme de travail qu'on a envie de prendre, mais c'est parfois ça commence même à l'annonce de l'arrivée de l'enfant. Est-ce que
Tout à fait. Je peux le confirmer puisque lors de ma deuxième grossesse, lorsque j'ai annoncé à mon employeur, donc l'agence dans laquelle j'étais, lorsque j'ai annoncé que j'étais enceinte, j'ai eu une mise à pied et j'ai été licenciée. Donc quand je raconte ça à des personnes qui ne me connaissent pas, la première réaction c'est « Ah mais on n'a pas le droit en France ». Oui, il y a des lois qui protègent les femmes enceintes, mais l'entreprise, si elle a envie de vous licencier que vous êtes enceinte, elle vous licencie. Et ensuite, il faut aller au prud'homme pour avoir quelque part gain de cause et faire reconnaître qu'il y a eu un préjudice.
Effectivement. Donc, en fait, il y a les lois et en fait, il y a la réalité du monde de l'entreprise où effectivement, hein, encore une fois, quand on est une femme et qu'on fait le choix de devenir maman, il y a des conséquences et des conséquences notamment sur notre carrière, sur le parcours professionnel. Comment est-ce que vous pouvez, d'après votre expérience, hein, nous expliquer ce processus? Pourquoi, en fait, les entreprises, à un moment, voient d'un mauvais œil le fait qu'une femme devienne maman?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il n'y en a pas qu'un, sinon ce serait plus simple à régler peut-être. Mais d'une part, l'entreprise voit souvent la grossesse et le congé maternité comme un problème parce que la maman va être absente pendant une période plus ou moins longue, si c'est son premier, si c'est son troisième, si elle a tant des jumeaux, si elle rencontre des problèmes lors de sa grossesse. Et donc, il va falloir trouver une solution, la remplacer. Donc, ça fait bouger les lignes en entreprise et ça peut être inconfortable, notamment lorsque l'entreprise ne souhaite pas remplacer cette personne qui va être absente pendant plusieurs semaines avec, par exemple, un CDD ou même un freelance, et répartit les tâches de cette personne sur d'autres collaborateurs. Donc, surcharge finalement les collaborateurs. Pourtant, des solutions existent. Alors, on a bien sûr le CDD, on a, comme je le disais, les prestations en freelance. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de possibilités, mais ça demande finalement à l'entreprise de chercher une solution et de trouver une solution qui soit en adéquation. Donc ça, je pense que c'est une problématique. La deuxième, souvent, lorsque la maman revient, elle est vue comme quelqu'un qui ne sera plus motivée, qui sera tout le temps absente. Alors, je le dis souvent en rigolant parce que non, un enfant n'est pas malade 365 jours dans l'année. Non, nous ne passons pas plus de temps chez le pédiatre qu'au travail, par exemple. Mais oui, ça arrive, comme à n'importe quel salarié, de tomber malade. Ben, c'est pareil chez les enfants, en fait. Hein. Ils tombent aussi malades de temps en temps, plus l'hiver que l'été. Il y a des périodes où certaines maladies reviennent. Mais la maman a aussi développer souvent de très nombreuses compétences pour pouvoir être multitâche ou pour pouvoir trouver des solutions. Parce que bien sûr, souvent on va dire « Ah oui, mais si l'enfant est malade, c'est la maman qui va être absente. » Oui, mais en fait, l'enfant, bien souvent, il a un papa ou il a une deuxième maman ou il a un grand-père ou une grand-mère qui peut s'occuper de lui ou une nourrice ou une babysitter. Je veux dire, la maman n'est pas la seule personne à être en capacité aujourd'hui de pouvoir gérer des situations quelque part de crise avec un enfant qui tomberait par exemple malade ou qui se casserait, je sais pas, le poignet à l'école ou la jambe. Il y a des relais, mais souvent on concentre ça, et je pense de par l'histoire française, où on est quand même dans un régime encore, une société très paternaliste, où la femme historiquement doit être à la maison et l'homme historiquement doit aller au travail.
Donc là, en fait, on retrouve aussi effectivement une concentration d'une idéologie culturelle, en fait, hein, où la femme se doit d'être à la maison pour s'occuper des enfants. Et en fait, le fait qu'elle soit dans un contexte de travail, eh bien, n'est peut-être pas toujours intégré, je dirais, dans l'inconscient collectif. Donc, si un enfant est malade, forcément, on va appeler la maman.
Exactement, mais vous le voyez aussi souvent à l'école. Hein, lorsqu'il y a un problème à l'école, souvent, on va appeler la maman en premier. Mais le papa peut très bien aussi prendre le relais. Il n'est pas plus capable ou pas moins capable que la maman d'aller chercher un enfant qui a de la température à l'école pour l'emmener justement chez le pédiatre ou pour l'emmener à l'hôpital si l'enfant s'est cassé quelque chose, etc. Les deux parents sont tout aussi capables de gérer un enfant au quotidien et sur quasiment toutes les tâches. La seule chose qu'un homme ne peut pas faire, à mon sens, c'est allaiter un enfant. Mais à part ça, il est capable de faire plein de choses et de s'occuper d'un enfant aussi bien que la maman.
Tout à fait. Et on voit d'ailleurs les papas, cette nouvelle génération de papas qui s'implique énormément. Alors, on sait par les études que quand arrive un enfant, souvent la femme peut décider de réduire son temps de travail. Mais on voit aussi également de plus en plus de papas qui profitent de leur congé de paternité ou que même prennent un congé parental. Est-ce que là, vous y voyez un changement de mentalité intéressant?
Un changement de mentalité très, très intéressant. Et pour le coup, moi, j'ai je dirais la chance, ou en tout cas, je suis dans un couple où on se partage énormément les tâches familiales. Et par exemple, à l'arrivée de notre troisième, c'est mon mari qui a pris un congé parental de 18 mois. Je suis retournée travailler, il s'est arrêté, il a géré en fait les enfants pendant 18 mois, ce qui a posé de nombreux soucis à son entreprise parce que l'entreprise n'a pas compris en disant « Mais attends, t'es un homme, t'es manager, t'as une équipe sous toi, qu'est-ce que tu nous fais quoi ? Pourquoi t'as besoin de t'arrêter ? Pourquoi t'as besoin ?» Voilà. Mais il est resté droit dans ses bottes. Il a dit « Moi, je veux passer du temps avec mes enfants, je veux les voir grandir, je veux m'en occuper au quotidien et j'ai pas envie d'arriver lorsqu'ils auront 18 ans avec finalement, ben, je les ai vus vite fait 2 heures par semaine et encore j'étais crevée le week-end. Et puis finalement, je ne sais pas qui ils sont. Ils ont été éduqués par des nourrices ou ils ont été éduqués par des babysitters ou même par ma femme. Et finalement, j'ai pas créé de relation ou pas suffisamment de relation avec eux. »
Wow, j'ai envie de dire, c'est sacrément courageux parce que effectivement, quand des jeunes papas, pour en avoir reçu certains dans l'émission, font ce choix-là de passer plus de temps auprès de leurs enfants, souvent c'est vraiment pas compris par l'entreprise et passent pour des ovnis en fait. Hein.
Oui. Donc c'est tout à fait ça. Et pas que par l'entreprise, parce qu'on a eu nous des réflexions de mon beau-père qui plusieurs fois a dit à mon mari bon, c'est bien de jouer à la femme au foyer, mais ce serait bien que tu ailles chercher de l'argent pour ta famille.
Effectivement, donc le changement de mentalité a encore beaucoup de chemin pour que ça soit quelque chose de normal en fait, qu'un père décide de passer du temps avec ses enfants et de prendre un congé parental, pourquoi pas. Mais effectivement, il y a encore du chemin, mais avec cette volonté en tout cas de la nouvelle génération des pères de s'impliquer plus auprès de leurs enfants et de faire en sorte que les mamans puissent compter sur eux. Et ça, c'est chouette d'entendre aussi, voilà, par rapport à votre propre expérience, que c'est une réalité et que ça se fait dans le cadre dans d'une discussion de couple et de vie aussi. Hein, de...
Oui, et je dirais, Fanta, je rajouterais, alors il faut effectivement que les pères, s'ils le souhaitent, s'impliquent plus, mais il faut aussi que les mères, parfois, laissent la place. Nous, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, bien évidemment. Il y a eu des zones de friction, il y a eu des discussions, il y a eu pas mal de choses parce que au début, en tout cas pour mon aîné et puis aussi très certainement pour ma deuxième, après les deux derniers, ça a été plus simple, mais finalement, c'était tellement ancré en moi que je devais tout faire que finalement, je ne lui laissais pas la place non plus de faire. Donc, il faut aussi que la maman se rende compte à un moment donné que oui, bien sûr, en tant que parent, elle est une pièce essentielle pour l'enfant, mais que le papa aussi, et qu'elle peut laisser faire le papa, et que si ce n'est pas fait comme elle l'aurait fait, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit fait. Parce que parfois, en tant que femme, on a aussi une vision hein, de par notre éducation, de comment on veut faire les choses ou comment doivent se faire les choses. Et l'homme ne va pas forcément le faire de la même manière. Et du coup, il faut aussi prendre ce recul-là en disant le principal, c'est que ce soit fait. Ce n'est pas que ce soit fait comme moi, j'aimerais que ce soit fait.
Mais comme j'adore ce que vous venez d'apporter là dans la discussion, parce que effectivement, en tant que femme, on a aussi à se regarder sur nos comportements et à laisser l'homme prendre sa place, en fait, parce que souvent ils sont de bonne volonté, vraiment. Et c'est pas toujours simple, comme vous venez de le dire, de lâcher prise et de dire quelqu'un d'autre peut très bien s'en occuper. Et c'est pas forcément moi. Qui doit être là tout le temps et prendre en charge tout, en fait.
Exactement, et c'est vrai que parfois on n'a pas la même façon de gérer. Je vais donner un exemple concret, mais par exemple sur la préparation des repas. Aujourd'hui, c'est mon mari qui doit préparer peut-être 80% des repas. C'était pas le cas, hein, il y a quelques années, ou en tout cas au début, on était en couple. Mais au début, j'ai eu du mal à lâcher les repas, même si c'était quelque chose qui me plaisait pas. J'aime pas particulièrement cuisiner, mais j'avais du mal parce que j'avais en tête que à midi et demi, par exemple, il fallait qu'on passe à table. Bon. Et donc, quand lui commençait à se mettre à cuisiner à midi, je voyais la préparation du plat, je me disais, on sera jamais à table avant 13h30, c'est pas normal. Mais finalement, est-ce que c'est bien grave si on mange à midi et demi ou si on mange à 13h30? Les Espagnols mangent bien à 15h et a priori, ça leur pose pas de problème. Pourquoi ça nous imposerait à nous? Donc aujourd'hui, j'ai lâché prise. Je sais qu'il va se mettre à cuisiner tardivement, que le week-end, par exemple, on va déjeuner tardivement. Bah tant pis, les enfants prennent pas le goûter le week-end souvent et puis on enchaîne avec le repas du soir.
Tout à fait. Donc, lâcher prise et accepter à ce que le conjoint, le partenaire, puisse lui aussi faire à sa façon et que ce n'est pas obligé d'être fait à notre façon. Parce que je sais que beaucoup de femmes ont du mal à lâcher là-dessus et ce qui entraîne bah, voilà, une charge mentale qui est là parce que, et puis bah, des tensions dans le couple parce que, il faudrait que ça soit fait comme nous, on le voudrait.
Exactement, exactement. Et c'est, je pense que c'est vraiment, enfin, il y a un travail effectivement de la part des hommes, hein, de s'investir et d'être présent. Moi, comme je dis toujours, on fait un enfant à deux, on l'éduque à deux en fait. Après, voilà, la seule chose, comme je disais tout à l'heure, que l'homme ne peut pas faire, c'est aller à notre place, mais il peut donner un biberon à notre place, il peut se lever la nuit à notre place, il peut aller chercher un enfant à l'école à notre place, il peut faire les courses à notre place, enfin voilà, tout le reste, il peut le faire à notre place. Et donc après, c'est la répartition, réussir à se répartir, que ce soit globalement équitable. Si l'un travaille plus, bah, que l'autre prenne plus en charge les tâches de la maison. Donc ça nous est arrivé, bah, quand je suis repartie travailler pour mon troisième et qu'il est à la maison, forcément, il s'est mis à tout faire à la maison. La tenue des comptes, les courses, aller chercher les enfants à l'école, gérer les devoirs, etc. Et moi, je rentrais le soir, c'était quand même très confortable pour moi de me dire, les enfants sont douchés, sont lavés, ont fait leurs devoirs, sont prêts à aller au lit si je rentrais un peu tard, et je peux passer un moment avec eux pour jouer, plutôt que de me dire, oh là là, il n'aura rien fait, il va falloir que je fasse la douche, que je prépare à manger, etc. Donc c'est vrai que on parle beaucoup de la charge mentale des femmes, donc les hommes doivent prendre leur part, mais les femmes doivent aussi lâcher leur part pour que ça puisse s'équilibrer dans un couple.
Et on voit aussi, hein, pour rebondir là-dessus, que les hommes sont aussi dans cette recherche de concilier ces deux aspects de leur vie bah, en étant présents plus à la maison et auprès des enfants. Et quand la femme se saisit de ça, comme vous avez pu le faire dans votre expérience. Il y a vraiment, j'ai l'impression, un sentiment bah, non seulement d'équilibre, mais aussi d'épanouissement, puisque vous avez pu construire votre projet professionnel et, j'ai envie de dire, être pleinement présente dans votre travail.
Exactement. Alors nous, on a de manière globale au niveau du couple, on a initié, d'ailleurs c'est mon mari qui a initié ça, pardon, avec son congé parental. On s'est dit qu'on voulait travailler, bien sûr, mais qu'on ne voulait pas manquer le quotidien de nos enfants. Donc lorsqu'il a en fait pris son congé parental, il s'est dit, en fait, j'ai envie de travailler, mais j'ai juste envie de travailler pendant que mon petit troisième fait la sieste ou pendant que les grands sont à l'école, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 22h le soir, rentrer, leur faire un bisou alors qu'ils sont encore, enfin, qu'ils sont en train de dormir, et puis être exténuée le week-end et finalement pas profiter de mes enfants. Donc, on a construit finalement toute notre vie professionnelle autour de notre vie de famille. Donc aujourd'hui, on a donc effectivement, comme vous le disiez en début d'émission, on a une agence digitale. On travaille en fait pour différents clients, principalement en France, quelques clients à l'étranger, mais principalement en France, sur des problématiques de marketing digital depuis chez nous. Mm-hmm. J'ai lancé, puis mon mari nous a rejoint, un organisme de formation qui s'appelle « Être maman est un plus », sous la marque « La tribu digitale ». Donc, « Être maman est un plus » parce que je suis persuadée que lorsqu'on devient maman, on développe des compétences additionnelles qui peuvent être très utiles en entreprise ou dans le monde professionnel. Et donc, aujourd'hui, la marque est la tribu digitale. Et justement, je forme les mères au métier du digital pour qu'elles puissent se lancer en tant qu'indépendantes, travailler de chez elles ou d'où elles veulent, à temps choisi, et ainsi mieux gérer leur planning personnel et leur planning professionnel. Et aujourd'hui, donc depuis plusieurs années, on va chercher nos enfants à l'école tous les jours. On les amène à l'école tous les jours, à tel point que maintenant, j'ai mes enfants qui me disent « Maman, on aimerait bien rester au périscolaire parce qu'on a nos copains qui restent au périscolaire. » Donc on est même dans une phase un petit peu différente. J'ai ma grande aussi qui est au collège qui me dit « Ah non, viens pas me chercher, je finis à 3h30, mais je reste avec mes copines au collège en études. » Ok, alors tous les enfants veulent rentrer, mais vous êtes les seuls enfants à vouloir rester à l'école finalement, puisque les parents sont peut-être plus présents. Et effectivement, on est disponible pour pouvoir aller les voir en activité. Le mercredi, par exemple, j'emmène mes enfants à la piscine. Ils ont 3 quarts d'heure de cours de piscine. J'emmène mon ordinateur, je me pose, je les regarde nager et je travaille en même temps. Ça, c'est quelque chose, si j'étais en entreprise ou en tout cas dans un métier traditionnel, que je ne pourrais pas faire.
Tout à fait. Et en fait, moi, ce que j'entends aussi, c'est un vrai choix de vie. Vous avez choisi, vous et votre conjoint, de passer plus de temps de qualité auprès de vos enfants. Et vous avez mis aussi les moyens pour y parvenir. Parce que souvent, c'est ce que, il y a l'aspect financier dans ce qu'on peut entendre. Oui, mais bon, s'il faut que je travaille moins ou s'il faut que je fasse comme ci ou comme ça, j'aurais peut-être pas le même salaire ou bien je n'aurais peut-être pas ceci ou cela. Mais quand ce choix-là est fait en conscience, on arrive vraiment, j'ai l'impression d'entendre ça dans ce que vous dites, à un véritable épanouissement et à concilier les deux, justement.
Exactement. Alors, c'est vrai que lorsqu'on se lance en entrepreneur, vous avez raison, Fanta, c'est souvent, j'entends aussi la même problématique, « Ah, mais je vais gagner moins » ou « Je ne vais pas avoir la sécurité de mon salaire » ou « Je ne vais pas avoir ci » ou « Je ne vais pas avoir ça » que j'ai dans le monde du salariat. Oui, mais peut-être que tu ne vas pas l'avoir tout de suite, mais si tu te donnes les moyens de l'atteindre, tu vas l'atteindre et tu vas même dépasser les objectifs. Après, il faut se donner les moyens de ses ambitions, hein, parce que on peut rêver de faire plein de choses, mais si on se met pas en action, il se passera rien. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, tu vas gagner en liberté. Et est-ce que la liberté vaut plus ou vaut moins que le salaire que tu as aujourd'hui? Ça, c'est très personnel. Moi, aujourd'hui, ma liberté, elle vaut plus que n'importe quel poste en CDI, même si je gagnais des centaines de milliers d'euros par an, ça ne vaudrait pas ma liberté d'aujourd'hui. Où je peux, bien sûr, j'ai des contraintes, mais je choisis aussi mes contraintes. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai pris un rendez-vous avec un client, je sais à quel moment je l'ai pris. Et je sais aussi, si je me suis libérée une demi-journée, par exemple, pour amener mes enfants en sortie scolaire, bah ça peut paraître être une contrainte, mais je le fais aussi avec plaisir et je sais que je vais compenser, par exemple, en travaillant un soir, un week-end, mais en même temps, j'ai profité d'une demi-journée où j'ai accompagné mes enfants en sortie scolaire. Donc, c'est une liberté et pour moi, la liberté, elle est bien au-dessus de tous les avantages qu'on peut avoir dans le salariat. Mais c'est très personnel et peut-être que d'autres personnes diront non, moi, je préfère avoir le confort d'un salaire et la rentrée d'argent pour être sécurisé d'un point de vue financier. Et finalement, la liberté est moins importante.
Tout à fait. C'est effectivement des questions très, très personnel. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement avec les nouvelles technologies et notamment les métiers du digital, on a plus de possibilités justement d'inventer et de créer justement cette vie où on n'a pas à choisir entre passer du temps au travail ou passer du temps auprès de nos enfants?
Alors, tout à fait, j'en suis la preuve vivante. Mon mari également, puisqu'il travaille aussi dans le digital, mais lui, côté tout ce qui est technique, en fait, développement, etc. Mais on en est tous les deux la preuve vivante qu'avec les métiers du digital, on peut aujourd'hui être à la fois, on va dire, un parent présent, puisque maman, papa, s'épanouir dans son travail et travailler. Après, il faut faire des choix. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait le choix. Alors oui, je regarde pas la télé 3 heures par jour. Je suis peut-être pas le soir devant mon programme préféré de télé, parce que souvent, ben, le soir, je vais en profiter une fois que les enfants sont couchés pour travailler. Parce que je préfère passer une heure ou deux avec eux dans la journée pour les emmener à leurs activités sportives, pour aller les chercher à l'école, pour passer du temps à la maison. Et je préfère le soir, plutôt que de me mettre devant la télé, me dire bah, ce temps-là, finalement, qui est improductif devant la télé, et ben, ça va devenir du temps productif où je vais faire une analyse pour un client, faire un reporting, préparer ma journée du lendemain, etc. Mais encore une fois, c'est très personnel et il faut juste que chacun et chacune puisse trouver finalement ce qui lui convient. Pour certaines personnes, passer leur soirée devant la télé, c'est très important parce que ils ont besoin de lâcher prise par rapport à leur journée. Pour d'autres, non. Donc, il faut juste que chacun puisse trouver finalement son propre chemin. Mais parfois, le propre chemin, c'est pas le chemin que voudrait nous faire emprunter la société.
Tout à fait. Et ça, c'est bien d'en avoir conscience, en fait, hein. Et que, encore une fois, cette notion de sécurité du salariat, est-ce que finalement tout le monde y trouve son équilibre et son bien-être? C'est vraiment une question qui se pose de plus en plus, hein, surtout d'après après les événements qu'on a tous subis là, les différents confinements. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de changer de vie et de prendre plus de temps pour eux et pour elles et pour leur famille. Donc, on est vraiment dans un changement, j'ai envie de dire, de mentalité par rapport à ce que représente le travail dans nos vies.
Tout à fait. Et c'est vrai que moi, donc, j'ai aujourd'hui formé plus de 1 000, 1 200 mamans à peu près. Je leur dis toujours, vous n'avez qu'une seule vie. Et c'est, je trouve ça particulièrement déprimant d'entendre des gens qui disent, par exemple, le dimanche soir, oh là là, demain c'est lundi, il faut y retourner, ou alors vivement vendredi, ou encore quand ils se présentent en fait, ou ils se disent bonjour entre collègues, ils finissent de se dire bonjour par bon courage. Oui. Sous-entendu, bon courage pour la journée. Mm-hmm. Je trouve ça, on n'a qu'une vie, donc autant s'éclater tous les jours, être content de se lever, même si parfois c'est dur, même si parfois on n'a pas assez dormi avec un enfant qui a, eu la gastro toute la nuit ou autre, mais autant se lever, être content, et puis se dire, chouette, j'ai une chouette journée qui m'attend aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller chercher mes enfants, etc. Que ce soit le lundi, le vendredi, le week-end, peu importe, mais voilà, profitons en fait de la vie, parce qu'on n'en a qu'une, tout simplement.
Tout à fait, tout à fait. Créer sa vie au lieu de la subir.
Exactement, c'est une très bonne phrase.
Ok, vous êtes toujours sur Marmite FM 88.4 et vous écoutez Naître et Savoir. Nous parlons aujourd'hui de comment trouver l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle avec notre invitée Nathalie Grimaud-Morville, maman et chef d'entreprise qui a su trouver son épanouissement et concilier ses deux temps de vie. Elle a partagé avec nous sa vision et des clés pour trouver cet équilibre. Et nous avons aussi abordé les nouvelles technologies et comment les métiers du digital notamment peuvent aider à trouver cet équilibre. C'est la fin de notre émission. Un grand merci à notre invitée Nathalie Grimaud-Morville. Vous pouvez suivre son actualité sur LinkedIn et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les formations proposées par la Tribu du Digital, vous pouvez consulter le site latribu-digital.fr. Merci beaucoup à Ronan à la technique. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de la radio pour écouter les anciennes émissions. Au revoir et à très bientôt.